pour conclure cette formation, d'abord je veux vous dire que j'ai été heureux de partager avec certains de vous qui m'avez contacté par Skype ou par téléphone ou par email. Je suis disponible à n'importe quel moment, dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, pour continuer à vous aider. Hein. Vous avez des questions à vous poser, des questions pratiques sur l'installation en cabinet, sur votre pratique elle-même, etc., etc. Vous pouvez me contacter. C'est avec plaisir que je vous apporterai mon concours si je peux vous aider. Vous pouvez aussi, quand vous le souhaitez, vous inspirer de certaines visualisations, de certains textes, etc. En revenant soit sur le manuel, soit sur les fichiers en podcast. Et puis donc, je voudrais revenir, j'ai pris quelques notes, même si tout au long de la formation, j'ai saupoudré comme ça de conseils pratiques propres à votre activité d'hypnothérapeute, que je souhaite que vous lanciez hein, cette formation. J'espère que, contrairement à beaucoup d'étudiants que j'ai pu voir passer qui venaient d'autres instituts, beaucoup ne se sont pas lancés, c'est un peu dommage. Enfin, bon, ça c'est le choix de chacun. Moi j'ai essayé encore une fois de créer une formation concrète, c'est-à-dire que la demande qui m'a été faite et l'idée de cette formation, c'était voilà, je veux devenir hypnothérapeute, je veux rajouter une corde à mon arc, à mon activité habituelle de thérapeute, quelle qu'elle soit, ou de médecin, ou de paramédical, quelle qu'elle soit. Je veux, voilà, concrètement apprendre à travailler, je veux que vous me proposiez une formation qui soit un outil pour travailler concrètement comme hypnothérapeute. C'est pour ça que cette formation est concrète, avec beaucoup d'exemples et des cas pratiques, notamment des demandes les demandes les plus fréquentes qu'on peut retrouver dans nos cabinets. Donc maintenant, je voudrais, pour ceux qui ne travaillent pas d'ores et déjà comme paramédical ou médecin ou thérapeute, qui n'ont pas une pratique de l'exercice en cabinet, revenir. Alors, je ne vais pas refaire la formation, peut-être même certains éléments vont revenir, hein, je vais peut-être y revenir dessus, mais je voudrais revenir sur certains conseils, des conseils que j'ai peut-être d'ores et déjà, comme je vous le disais il y a un instant, déjà saupoudré dans cette formation, mais on y revient, ce n'est pas inutile. Alors, ça sera peut-être pas très naturel hein, parce que j'ai pris des notes je vais lire au fur et à mesure. Alors, le premier point, quelle que soit votre formation, surtout encore une fois, si vous n'êtes pas ni médecin, ni psychothérapeute, ni psychologue, si vous n'avez pas une habitude et une formation notamment dans le domaine de la psychologie, essayez, dans la mesure du possible, de la compléter par des formations diverses et variées, courtes, toujours dans ce domaine de la psychologie. Alors ça peut être des formations courtes, encore une fois, des stages complémentaires en psychothérapie. Ça peut aussi prendre la forme de certains DU, diplômes universitaires à la fac, qui se font en général sur 1 an. Voilà, ça sera toujours utile d'approfondir ou de s'ouvrir à d'autres techniques. Et ce sera un enrichissement et une compétence supplémentaire qui enrichira vos propres qualités à mettre en œuvre votre technique, quelle qu'elle soit. Autre conseil, soyez toujours à l'écoute de votre patient. À l'écoute, ce n'est pas un vain mot, il faut ne pas se mettre en avant. Au contraire, se détacher, cette fameuse attention flottante, ou attention dans tous les cas, attention flottante qu'on connaît en analyse, mais attention, vous êtes à l'écoute de votre patient, concentré sur son discours, vous ne vous mettez pas en avant, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, encore une fois, mais pour aider sa vie à lui, tout au contraire. Donc soyez à l'écoute, soyez honnête aussi, clair, précis, en ce qui concerne les questions financières, soyez aussi clair et précis. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas affaire à des simples d'esprit. Ce sont des gens qui sont souvent des professionnels, qui vous regarderaient un peu différemment et étrangement si vous n'étiez pas précis sur les questions d'argent. Alors bien évidemment, alors ça j'ai pas besoin de vous le dire, oubliez toute velléité de faire payer des prix exorbitants à des personnes qui seraient supposées être faibles, etc., etc. Bref, soyez honnête et n'essayez pas de profiter ou d'abuser de la supposée faiblesse des gens. Dans le même ordre d'esprit, ne vous prévalez pas de titres ou de diplômes que vous n'avez pas. Alors bien évidemment, personne ne va venir vérifier, mais quel est l'intérêt si cette personne a déjà pris rendez-vous avec vous, si elle est déjà dans votre cabinet, c'est qu'elle bouffait, il y a déjà une première dose de confiance qui s'est installée. Donc ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour un ego un peu pervers quelque part, mais j'espère que vous n'avez pas ce type d'ego et moins vous l'aurez, meilleur psychothérapeute au sens large vous serez. Ne vous prévalez pas non plus de capacités ou de qualités que vous ne possédez pas. Ne jamais laisser faire croire à votre patient que vous pouvez le guérir de telle ou telle maladie, que la médecine elle-même est bien incapable de guérir. Alors si par miracle ça se fait, bah, écoutez, tant mieux. Mais ce sera seul le corps du patient qui, pour une raison ou pour une autre, et notamment une raison qui échappe à tout le monde, y compris à la médecine, c'est ce corps qui aura fait rémission de cette maladie. Voilà, ne jouez pas les apprentis sorciers. Non seulement ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique, et de surcroît, c'est juridiquement répréhensible. Bon, je l'ai déjà dit, hein, n'essayez pas de tirer un profit quelconque de la faiblesse relative et supposée ou réelle de vos patients, à quelque point de vue que ce soit, on en a déjà parlé, financier ou sexuel ou d'autres avantages divers. Comme je l'ai déjà dit, vous serez gagnant vous-même à tout point de vue, en adoptant une telle éthique et une telle morale. Essayez de démystifier l'hypnose aussi. Encore une fois, on n'est pas dans le surnaturel, on n'est pas dans la métaphysique. Et la plupart des patients que vous rencontrerez le comprennent tout à fait. Alors vous pouvez aussi, là on va parler encore de médecine et de médicaments, vous pouvez expliquer le rôle des médicaments. Si vous identifiez qu'une personne en dépression, par exemple, ou dans un état particulier, un bipolaire ou un schizophrène, etc., bref, une pathologie mentale particulière, vous pouvez, si vous connaissez le rôle des médicaments, leur expliquer le rôle des médicaments, quels qu'ils soient, hein, oncolytiques, neuroleptiques, thymorégulateurs. Antidépresseurs, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le domaine psy. La finalité de leur expliquer le rôle des médicaments, si vous les connaissez, c'est de leur faire accepter l'idée que peut-être qu'à ce moment-là de leur existence, en parallèle de cette technique que vous allez mettre en œuvre ensemble, donc l'hypnose, leur faire accepter l'idée que ça serait peut-être plus efficace hein, en parallèle d'être médicalisé et de voir donc notamment un psychiatre. Donc si vous connaissez un psychiatre, essayez de les rerouter vers un psychiatre, de leur donner les coordonnées, hein. C'est pas à vous de faire la démarche, de prendre rendez-vous pour eux, hein. Ça c'est à eux de se débrouiller. Alors, bon, je passe du coq à l'âne. Hein. D'ailleurs, dans ce petit guide pratique, on va dire, je passerai consacré aux débutants, je passerai du coq à l'âne en permanence. Alors, d'un point de vue commercial, répondez toujours aux emails que l'on vous envoie et aux questions que l'on vous pose, même si vous avez le sentiment que certaines questions sont farfelues, bizarres, illégitimes, étranges. Vous essayez d'y répondre le plus sérieusement possible, bien évidemment. Vous vous rendrez compte que ce sont, vous obtiendrez un taux de retour, de prise de rendez-vous important lorsque vous aurez répondu à ces mails. D'une part, les questions que vous allez recevoir dans ces mails seront très souvent raisonnables, hein, faut pas s'inquiéter non plus. Et vous verrez encore une fois que le taux de transformation d'un email répondu en rendez-vous est très important. Donc c'est vraiment intéressant de le faire pour son activité commerciale. Donc le peu de temps que vous allez investir dans votre réponse sera loin d'être perdu. Alors vous allez comprendre aussi lors des prises de rendez-vous par téléphone que ceux qui vous posent le plus de questions et qui ou qui commencent à essayer de vous raconter leur vie au téléphone, bah, la plupart du temps, ces gens-là ne prendront pas rendez-vous. A contrario, ceux qui vont vous décrocher en vous disant bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous, on fixe rendez-vous, ils ne posent pas de questions ou très peu. Bien sûr qu'ils ne vont pas poser des questions, ils n'ont pas forcément vu le prix, ou ils veulent savoir si vous pouvez travailler sur telle problématique. Voilà. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, il n'y a pas de questions, je voudrais prendre rendez-vous. On se fixe des rendez-vous, des modalités de rendez-vous, et c'est à vous de les déterminer, ces modalités, on va voir ça tout à l'heure. Mais ceux qui commencent à vous raconter leur vie ou qui vous posent énormément de questions, dans 95% des cas, ceux-là, à l'issue de votre conversation téléphonique, ne prendront pas rendez-vous. Donc, dans la mesure du possible, vous avez l'emploi du temps à faire respecter, vous devez conserver votre temps pour vous-même, ne pas vous laisser envahir. Bah, ces gens-là, vous essayez, vous y arriverez assez rapidement, j'espère, à zapper ces gens-là au bout de quelques questions en leur disant, bah, écoutez, excusez-moi, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions, on peut l'envisager lors d'un rendez-vous, souhaitez-vous prendre rendez-vous, etc., etc. Oui, j'appelle, je lis mes notes là, j'appelle ça les touristes. Ils sont là pour avoir de l'info. Et bien souvent ne franchiront jamais le pas en fait. Ils sont là pour. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Enfin, du moins pas tout de suite. Ils franchiront peut-être pas le pas tout de suite. Dans tous les cas, essayez d'être neutre, poli, mais voilà, ferme. Si à partir de quelques minutes, vous sentez que eux seraient prêts à faire déborder et avoir des entretiens gratuits par téléphone, c'est à vous poliment de clôturer cette conversation téléphonique. Alors, je disais oui, les modalités de rendez-vous en fait. Moi concrètement, comment je fonctionne, je crois que j'en ai déjà parlé. On m'appelle pour prendre un rendez-vous, je prends leur nom, prénom, numéro de téléphone et une adresse email. Et j'envoie une adresse, un mail avec toutes les coordonnées. Bon, il se trouve que à mon cabinet, il y a code grille et code porte, donc ça ferait beaucoup à noter. Mais parfois, ils nous téléphonent, ils sont dans la rue, donc ils n'ont pas forcément de quoi noter, donc c'est toujours bien de recevoir ce mail et je leur demande de confirmer la réception du mail par un message, ok, bien reçu. De ce point de vue-là, d'ailleurs, si vous prenez rendez-vous avec une personne, si une personne prend rendez-vous, par exemple, 3 semaines ou 1 mois à l'avance, n'hésitez pas, une semaine avant, à la relancer parce que, pour être tout à fait honnête, lorsque vous prenez rendez-vous à 1 semaine, 15 jours, vous avez un taux de rendez-vous, enfin de concrétisation à 100%, les gens viendront, sauf un petit pourcentage infime d'annulation ou de personnes qui viendront sans vous prévenir, ça c'est extrêmement rare quand même, il faut bien le dire. Et donc, d'ailleurs, si, par rapport à ce point, si vous êtes en début d'exercice, ne vous formalisez pas, il y aura des gens. C'est très rare, hein, qu'ils ne viendront pas pour sans vous prévenir. Bah, écoutez, ne les rappelez pas, ne leur envoyez pas de mail, oubliez-les tout simplement, gardez votre énergie pour vous, ça ne changera pas grand-chose, vous ne pouvez pas amener les gens dans votre cabinet. Donc disais-je, je leur envoie un mail, ils confirment par réception du mail, par retour de mail. Oui, ce que je disais, c'est si quelqu'un a pris rendez-vous 3 semaines, un mois et demi à l'avance, n'hésitez pas une semaine avant ou 10 jours avant de le recontacter par mail en lui demandant, voilà, j'ai un planning, Parce que là, par contre, pour le coup, le taux de personnes qui oublient est un peu plus important. Donc, autant leur rappeler et s'organiser correctement. Maintenant, autre point, la modulation des tarifs. Bon, vous le savez, moi je ne module pas mes tarifs, c'est le même tarif pour tout le monde. Vous, ça sera en fonction de votre pratique, de vos désirs, de votre clientèle peut-être, étudiant, chômeur, jeune retraité, personne me paraissant plus ou moins fortuné, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de décider en fonction de votre morale, encore une fois de votre éthique, de votre mode de vie, de vos croyances, de ce que vous supposez bien. Et en même temps, vous aurez le temps d'évoluer, hein, sur ce point. Vous changerez peut-être au long de votre carrière de credo là-dessus. Moi, je ne pratique pas, je ne sais pas si on en a parlé ou pas, il fut un temps, c'est extrêmement rare aujourd'hui, où certains proposaient le premier entretien gratuit. Moi, je ne le pratique pas parce que après, on se retrouve avec quelques rendez-vous par semaine gratuits, on perd du temps, des gens qui viennent une fois, qui n'en reviendront pas, donc ça n'a pas un grand intérêt et tous les psys connaissent, tous les psys au sens large, hein, connaissent ces gens qui font le tour de tous les psys, un rendez-vous par semaine ou deux rendez-vous par mois, c'est gratuit, on y va, ça nous fait du bien de parler, on a que ça à faire. Bon, là, à vous de gérer, comme vous le souhaitez. Là j'ai noté utiliser plus le terme hypnothérapie qu'hypnose. Voilà, bah, avec les spectacles, etc. Encore une fois, hypnose, c'est un peu galvaudé, quoi, c'est un peu trivial, un peu vulgarisé, mais de façon péjorative. Bon, voilà, ça peut. Vous pouvez l'utiliser, bien évidemment. Hein. Encore une fois, les gens qui sont là vous font confiance, qui sont là dans votre cabinet vous font confiance. Hypnothérapie, c'est, je trouve en plus un très joli mot. Donc, alors si, lors maintenant, rentrons dans un entretien, si vous avez le sentiment que, enfin, si un de vos clients qui est par exemple réservé, peu prolixe, a le sentiment de vous avoir tout dit en 15 minutes, bah, c'est à vous à ce moment-là d'essayer de gratter. D'essayer d'approfondir, d'obtenir des informations avec tact et délicatesse. Certains sont plus timides, plus réservés, ont besoin de travailler, mais ils sont timides, réservés, donc ce n'est pas inutile, c'est même utile. Et cela révèle parfois, et même souvent, des belles surprises qui peuvent, encore une fois, nous être utiles pour travailler et utiles à votre client. Pour avancer, pour débloquer des nœuds ou des comportements ou des souffrances. Donc si vous voyez que cette personne a des difficultés à s'ouvrir, bah, si elle est un peu trop introvertie, justement, bah, essayez de développer un peu. Sachez quand même marquer les limites, respecter son intimité. Ne soyez pas intrusif, et ça c'est valable pour tout le monde, pas uniquement pour les gens un peu trop introvertis, mais pour tout le monde. Voilà, respectez quand même dans une certaine mesure une forme d'intimité. Restez neutre aussi, n'imposez pas, soyez aussi empathique. Autre exemple concret, enfin autre conseil concret, n'hésitez pas à proposer des mouchoirs. Voilà, le client pleure. Malheureusement, c'est un métier, bah oui, on travaille aussi avec de la souffrance, et parfois de l'extrême souffrance. Donc il arrive aussi assez fréquemment, ou du moins régulièrement, que certains clients pleurent. C'est jamais les grandes eaux, ça arrive. Mais voilà, ce sont des larmes, ça arrive, c'est pas rare. Je ne vais pas dire que j'en ai un tous les jours, mais on va dire que j'en ai un tous les 2 jours qui va pleurer. Client. Bah, vous proposez les mouchoirs, vous avez une boîte toujours en permanence dans votre bureau. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, tout le monde ne pleure pas, loin s'en faut. Hein. Mais voilà, il faut que vous soyez prêt à cette éventualité. Il ne faut pas être pris au dépourvu. Vous pouvez faire preuve d'humour aussi, si vous savez le manier, et en fonction de votre patient, cela peut vous rapprocher, cette fameuse synchronisation. Cela peut aider aussi à débloquer un discours, à détendre un entretien trop chargé en émotions négatives, à faire avancer la parole du patient. Donc il faut savoir jauger et juger où vous pouvez faire preuve d'humour si vous savez manier l'humour. Je ne vous l'impose pas, évidemment, c'est pas un conseil pratique, je ne vous l'impose pas. Je vous le recommande si vous savez, encore une fois, le manier. Simplement, je veux dire que ce n'est pas une interdiction. Certains pensent que ça y est, le psy, quel qu'il soit, entre guillemets, le psy, bien sûr, quel qu'il soit, c'est quelqu'un de sérieux, de triste et d'ennuyeux. Ben non. L'humour dans les cabinets, si de psy, si l'humour avait plus sa place, on obtiendrait très probablement plus rapidement de meilleurs résultats. Donc, pas d'interdiction. Lors de l'entretien, expliquer, montrer ce que sera la séance. Cela rassurera votre patient. Décortiquer la séance, comme moi je peux le faire. Voilà, comment est-ce que je fais concrètement? Je dis voilà, moi je suis assis ici, vous serez allongé là. Il y a deux phases dans la séance. Première phase, c'est une induction. Deuxième phase, c'est ce sont des visualisations. Je vais tout vous décrire, il n'y aura pas d'échange entre nous. Vous pourrez. Comment est-ce qu'on se ressent pendant une séance? Vous allez vous ressentir comme ceci ou comme cela. Bon, ça, vous ferez évoluer tout cela en fonction de votre discours. Vous lui expliquez les ressentis potentiels pendant la séance. Tout le monde ne ressent pas de la même manière. Les résistances possibles de l'inconscient. Le réveil, l'entretien post-hypnotique, vous lui décrivez un peu comment cela va se passer. Vous l'installez d'ores et déjà dans le cadre, ça le rassure sur l'instant. Bien souvent, ils ont envie de poser cette question, d'ailleurs, c'est une des questions qu'ils ont envie de vous poser. Et puis, ça le prépare déjà plus facilement, positivement, à la séance qui viendra lorsque vous reprendrez rendez-vous. Vous les incitez à la fin d'un entretien à poser des questions. Vous avez des questions concernant l'hypnose, concernant notre travail. Voilà, ils auront toujours une ou deux questions, quoi. Alors après une séance, chose encore une fois très concrète, on l'a vu il y a peu de temps, certains sont très léthargiques, très endormis, donc l'entretien 10-15 minutes ou un peu plus pour qu'ils sortent de cet état particulier. Pas tous, hein, mais. Et s'ils doivent reprendre un véhicule, scooter, voiture, vous les engagez à aller prendre un café dans le coin, à marcher un peu, pour se réveiller, finir de se réveiller totalement, quoi. Autre point pratique et précis et utile, avant la séance, si vous avez des toilettes à disposition, proposez-lui d'aller aux toilettes. Il n'y a rien de pire pour rater une séance que d'avoir une vessie trop pleine, d'avoir envie de faire pipi et d'être complètement obsédé et concentré là-dessus. Avant le début de la séance, quand il est allongé, vous lui redonnez quelques indications sur le processus. Vous lui dites, voilà, comme je vous l'ai dit, donc il y a deux phases dans la séance, ça c'est la première fois qu'il viendra, la deuxième il le saura. Donc première séance, il y a deux phases dans la séance, une induction, une profonde relaxation, il y aura ces visualisations. Si vous n'êtes pas à l'aise pendant la séance, vous pouvez bouger, vous gratter, tousser sur le divan. Il n'y a pas d'échange entre nous. Si vous devez avoir une conversation, vous l'aurez mentalement. Vous lui dites que, il y aura peut-être des bruits à l'extérieur du cabinet, ou si ces bruits le dérangent, qu'il essaie de revenir au son de votre voix, à ce qu'il ressent. Que bien souvent, en fait, les bruits sont présents en fond sonore, mais ils ne dérangent pas. Et s'il ne les entend pas, ce qui arrive parfois, même pour des bruits très importants, bah, c'est parfait. Voilà, lui redonnez quelques indications, un peu le mode d'emploi au début de la séance. Comment vous allez mettre en œuvre cette séance, quelles seront les interactions entre vous ou pas. Alors si, comme ça m'est arrivé malheureusement deux, trois fois, des bruits particuliers très forts perturbent la séance, quelqu'un qui vient sonner à la porte, frapper à la porte, ça m'est arrivé de fois en 20 ans, hein, ou en plus de 20 ans, ou des bruits de travaux trop importants, bah vous restez neutre, vous faites comme si de rien n'était, vous continuez votre séance. Dans la mesure où lui ne fait pas, ne montre, enfin votre patient ne montre pas de signe de perturbation extérieure du moins, et qu'il continue sa séance. Encore une fois, dans notre technique, ça peut très bien en rien gêner le travail qu'on fait sur l'inconscient. Donc vous restez neutre et vous continuez la séance. Comme je l'ai déjà évoqué également, si le sujet montre des signes d'angoisse trop marqués, vous lui proposez de sortir de la transe, vous le rassurez, vous le calmez, vous lui proposez un autre rendez-vous, vous ne lui faites pas payer ce rendez-vous-là, sauf s'il insiste pour la payer, ou sauf s'il veut recommencer la séance 5 minutes plus tard ou 10 minutes plus tard, voilà, en fonction de votre... De votre planning, vous acceptez ou pas. Si effectivement ces signes et cette sortie de la transe s'effectuent au début de la séance, c'est possible. Si c'est si c'est à la moitié ou à la fin de la séance, on considère que la séance est faite, surtout à la fin de la séance. Donc voilà, vous proposez dans tous les cas de refaire la séance ultérieurement, si c'est au début de la séance. Bon, ça, ce sont des cas extrêmement rares. Hein. C'est de l'ordre de 1 pour 1000 ou de 1 pour 2000 séances. Enfin, moi, en ce qui me concerne, du moins. Alors, pour les femmes ou pour les hommes qui ont des voix un peu aiguës, encore une fois, tout type de voix peut convenir à notre travail. L'inconscient, lui, n'est pas censé savoir que la voix est aiguë ou grave, et ça ne le perturbe pas forcément, surtout qu'il travaille avec les matériaux qu'envoie le client. Sauf que le filtre de la voix, c'est le filtre du préconscient qu'entend le client, et qu'il est a priori plus apaisé et plus à même de faire le travail avec une voix un peu basse et grave. Donc si vous n'avez pas naturellement cette voix basse et grave, vous essayez de travailler un peu votre voix et d'avoir une locution lente dans tous les cas, un peu appuyée, un peu basse. Mais ne vous inquiétez pas, tout type de voix convient à notre technique. Essayez encore une fois de donner aussi des instructions ou du moins des visualisations clair. Ne vous lancez pas dans des visualisations qui seraient difficiles à comprendre. Essayez de les faire courtes et claires. Et ensuite, lui va mettre en œuvre dans sa séance cette visualisation. Si votre sujet pleure donc pendant une séance, que vous voyez couler pendant une visualisation, que vous voyez couler une larme, la visualisation suivante, essayer de faire quelque chose de a priori qui ne provoquerait pas d'émotions négatives. Voilà, vous essayez de le calmer, quitte à bouleverser un peu l'ordre de vos visualisations. C'est pour ça que je vous invite à noter vos visualisations sur une fiche ou sur une feuille, dans tous les cas. Si vous voyez que votre sujet hyperventile et que vous pouvez aussi interrompre la séance, là, autant ne pas prendre de risque, interrompre la séance. Approfondissez toujours la transe avec plusieurs techniques d'approfondissement. Plus c'est approfondi, et meilleur ce sera, ça c'est certain. N'oubliez pas d'insister aussi sur certains mots, comme je le fais, vous accentuez sur les mots les plus importants. Vous jouez, n'oubliez pas de jouer votre séance quelque part. Essayez, là on revient un peu à la voix, d'utiliser un peu ce rythme de mélopée, ce rythme un peu litanique. Cela facilitera l'entrée de la transe de votre client. Moi, j'y associe une musique de relaxation, un peu comme ça, litanique. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de la musique de Reiki. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est utile. D'ailleurs, bien souvent, les clients font la remarque à la fin de la séance, c'est bien cette musique. Donc c'est utile pour aider à la relaxation, au relâchement, quoi. Soyez toujours très précis, encore une fois, dans vos actions, vos ordres, vos suggestions, vos visualisations. Ne les laissez pas non plus perdus dans la nature, quoi. C'est-à-dire que vos ordres, vos visualisations doivent être précis. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas besoin, une fois que vous êtes tu pour qu'ils fassent le travail, d'essayer de comprendre ce que vous avez voulu leur demander de faire et d'essayer d'imaginer eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Donc, soyez précis, encore une fois. Ne laissez pas trop de temps libre pour faire une visualisation avant de reprendre la main et de passer au descriptif de la visualisation suivante. Vous leur laissez pour faire leur visualisation une moyenne de 1 minute 30 ou 2 minutes, en fonction de la visualisation elle-même, si elle nécessite ou pas un temps plus ou moins long. Donc voilà, entre 1 et 2 minutes, c'est un bon tempo. Alors certains clients vous diront que c'était trop long, d'autres vous diront que c'était suffisant. Ben, on ne peut pas malheureusement adapter. Voilà quelques exemples concrets comme ça, un peu fourre-tout dans tous les cas et un peu fouillis. De tout cela, on en a déjà discuté pendant la formation. Je fais appel à votre bon sens et dans tous les cas, n'hésitez pas, vous me recontactez. Je suis là pour vous répondre et ça sera avec le plus grand plaisir que j'aurai des nouvelles de vous et qu'une nouvelle fois, j'essaierai de vous apporter des réponses pour vous aider dans votre pratique. Alors, je vous remercie encore une fois de votre confiance et je vous dis donc à bientôt.